brothers and sisters, we welcome.
Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la réunion spirituelle mondiale pour les jeunes adultes. La diffusion a lieu depuis le tabernacle de Salt Lake City. Je suis Bernd Broadbent, président du pieu des jeunes adultes seuls de Taylorsville. Nous souhaitons la bienvenue à Lynn J. Robbins de la présidence des 70 et nous sommes reconnaissants que Sir Robbins l'accompagne ce soir. Frère Robbins, notre orateur de ce soir, sera présenté ultérieurement. Nous sommes reconnaissants de la présence sur l'estrade de nos 70 d'interrégion, de présidents de pieux, de jeunes adultes locaux, de la femme de Frère Burton, Linda Burton, qui est la présidente générale de ce cours et membre du bureau de l'éducation de l'Église, ainsi que des administrateurs des séminaires et instituts de religion et de leurs épouses. Le chœur et la congrégation commenceront cette soirée en chantant le cantique numéro 50 dans le recueil de cantiques français « Christ est ma lumière ». Nous apprécions l'aide de Karine Child, qui dirigera la musique, et de Bonnie Goodleaf, qui nous accompagnera. Après le cantique, Rauna Barwick fera la prière d'ouverture.
Notre Père Céleste bien-aimé, nous sommes très reconnaissants de l'occasion d'être réunis ici, à la fois dans le tabernacle et dans d'autres régions du monde, pour écouter Frère Robbins. Veuille nous aider à écouter avec un esprit ouvert pour retenir les choses qu'il nous dira et qu'il nous faudra mettre en pratique. Aide-nous à ressentir ton esprit et à mettre ces choses en pratique. Père, protège-nous lors de notre retour pour que nous rentrions en sécurité et aide-nous à respecter pendant la semaine les alliances que nous avons renouvelées aujourd'hui. Nous t'aimons beaucoup et nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
This evening, we are joined by a combined choir.
Ce soir, nous sommes accompagnés par un chœur combiné de l'Institut de religion de Logan qui chantera Twas Witnessed in the Morning Sky. Il est dirigé par Eric Stoffer et accompagné par l'organiste du tabernacle Bonnie Goodleaf. À la suite de l'intermède musical, nous aurons le plaisir d'entendre Frère Robbins. À la fin du message d'Elder Robbins, le chœur chantera La foi à chaque pas. Il sera dirigé par Niles Salmon. Ensuite, Maofu Taoteoli fera la prière de clôture. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter l'orateur de ce soir. Lynn G. Robbins a été soutenue à la présidence des 70 le 5 avril 2014. Il est devenu membre du premier collège des 70 en avril 2000, après 3 années comme membre du deuxième collège des 70. Précédemment, il avait été président de l'interrégion du Sud de l'Amérique du Sud, de l'interrégion d'Amérique centrale, et de l'interrégion de l'Ouest de l'Amérique du Nord. Il a fait une mission à plein temps dans la mission du Nord de l'Argentine et a été président de la mission de Montevideo en Uruguay. Pendant sa carrière professionnelle, Frère Robbins a été l'un des fondateurs de Franklin Quest, qui est devenu plus tard Franklin Covey. C'est là qu'il a fini sa carrière quand, en 1994, il a été appelé à présider la mission de Montevideo en Uruguay. Lynn Grant Robbins a grandi à Springville, en Utah. Il est marié à Jan Nilsson. Ils ont 7 enfants et 17 petits-enfants. Le chœur va maintenant chanter « Twas Witnessed in the Morning Sky ».
Witnessed in the morning sky, an angel of word. What a beautiful choir. Thank you so much.
Quel beau chœur. Merci beaucoup. Frère Broadbent, je vous remercie pour cette aimable présentation. Je suis reconnaissant pour la prière dans laquelle nous avons tous demandé que l'Esprit soit avec nous ce soir. Frères et sœurs, bienvenue à cette réunion mondiale pour les jeunes adultes. Nous saluons tout particulièrement ceux d'entre vous qui obtiendront leur diplôme du séminaire cette année. Un accomplissement digne de louange et une preuve de votre foi et de votre amour pour le Seigneur. Je vous invite à suivre l'exemple de beaucoup d'autres ici ce soir, en poursuivant votre quête d'apprentissage spirituel dans un institut de religion locale ou dans une université de l'Église. Je vous promets que vous continuerez d'être guidé dans toutes les décisions importantes de votre vie et rencontrerez des personnes qui auront un impact important sur vous. Ce soir, vous allez m'entendre témoigner du Seigneur Jésus-Christ et de son Évangile. Vous allez m'entendre utiliser les mots « je sais ». Je veux vous décrire comment je suis parvenu à savoir qu'il est le Fils littéral de Dieu, le Rédempteur et Sauveur du monde, et que son Évangile est vrai. Je veux également vous aider à découvrir la force insoupçonnée de votre témoignage du Seigneur Jésus-Christ et de son Évangile. J'aimerais commencer par vous demander de vous auto-évaluer. Regardez la ligne sur cette illustration et attribuez une note à votre témoignage sur l'échelle de la foi. Tout en bas, il y a l'athée. Nous donnerons la note de 0 à l'athée. Tout en haut de l'échelle, il y a un 10 qui correspond à une connaissance parfaite de Jésus-Christ et de son Évangile. Où vous trouvez-vous sur cette échelle? Je suppose que beaucoup d'entre vous s'attribueraient une note bien inférieure à celle qu'ils méritent. Retenez bien la note que vous vous êtes attribuée pour voir si elle augmente au cours de cette présentation, alors que nous abordons divers aspects de l'édification d'un témoignage et la façon dont nous nous aidons mutuellement à progresser sur l'échelle de la foi pour obtenir une plus grande paix et un plus grand bonheur. Alma invite chaque personne à faire le premier pas sur l'échelle de la foi en faisant l'expérience de ses paroles et en faisant preuve d'un tout petit peu de foi, oui, même ne rien faire de plus que désirer croire. L'idée suivante illustre la sagesse qui pousse à faire le premier pas, le désir. En 1623, le prodige, mathématicien et inventeur français Blaise Pascal est né. Il a entre autres découvert la théorie mathématique de la probabilité, sur laquelle la théorie de la rationalité est basée. Il s'agit d'une approche logique pour prendre les meilleures décisions. Avec la théorie de la décision, Blaise Pascal a habilement observé qu'au jeu de la vie, les humains sont forcément confrontés à la plus grande dégageur, à savoir l'existence ou non de Dieu. Cela s'appelle désormais le pari de Pascal, avec la vie d'une personne, ou plus spécifiquement sa vie éternelle, en jeu, comme le montre cette illustration. Dans l'entrée des colonnes, il y a deux options. Soit Dieu existe, soit il n'existe pas. Dans les rangées, il y a également deux options. Je peux choisir de croire ou de ne pas croire. Les combinaisons possibles qui en résultent sont les suivantes. Si Dieu existe et que je crois et agis en conséquence, je peux hériter de la vie éternelle. Si je crois et que Dieu n'existe pas, je ne perds rien. Si je ne crois, ni n'honore, ni n'obéis à Dieu et qu'il existe, je perds la vie éternelle. Si je ne crois pas et que Dieu n'existe pas, je ne gagne rien. Le pari de Pascal soutient que la décision optimale est de croire en l'existence de Dieu et que seul un fou parierait contre son existence parce qu'il a tout à perdre et rien à gagner. Le fils prodigue dirait que ce qu'il perd, c'est la chance de pouvoir manger, boire et se réjouir. Un piètre lot de consolation quand on songe à ce qui est en jeu. Il peut trouver de la joie dans ses œuvres pendant un certain temps. Mais bientôt la fin arrive. Ses rêves de festivité et de plaisir deviennent un cauchemar éveillé quand il émerge enfin des lendemains d'ivresse spirituelle dont il fait l'expérience dans cette vie et découvre par lui-même que la méchanceté n'a jamais été le bonheur. Et plus tard, au jour du jugement, quand il confessera devant Dieu que ses jugements sont justes. En temps voulu, il apprend qu'il a été berné par le maître de l'illusion avec sa marque embellie de misère déguisée en plaisir. C'est pourquoi on peut lire que votre cœur n'envie point les pécheurs. Heureusement, le fils prodigue a eu une seconde chance, ce qui est l'une des plus grandes leçons que le Sauveur veut que nous retenions de cette parabole. Alma décrit l'étape suivante. Laissez ce désir agir en vous jusqu'à ce que vous croyez de manière à pouvoir faire place à une partie de mes paroles. Maintenant, nous allons comparer la parole à une semence. Or, si vous faites de la place pour que la semence puisse être plantée dans votre cœur, planter la semence signifie que vous avez maintenant agi sur votre désir avec une curiosité inspirée par l'expérience. Vous avez maintenant débuté le processus d'apprentissage. D'après les Écritures, ce processus d'apprentissage doit se dérouler de deux façons. Et comme tous n'ont pas la foi, cherchez diligemment et enseignez-vous les uns aux autres des paroles de sagesse. Oui, cherchez les paroles de sagesse dans les meilleurs livres. Cherchez la connaissance par l'étude et aussi par la foi. Les Écritures nous apprennent aussi l'existence de deux canaux par lesquels l'Esprit nous instruit. Oui, voici, je te le dirai dans ton esprit et dans ton cœur, par le Saint-Esprit qui viendra sur toi et qui demeurera dans ton cœur. Or, voici, c'est là l'esprit de révélation. Avant de revenir au spectre de la foi, je voudrais illustrer la corrélation entre les deux méthodes d'apprentissage et les deux canaux d'apprentissage. Les relier entre eux vous donnera de bonnes idées sur la manière de continuer à progresser le long de l'échelle de la foi. Quand Joseph Smith a appris à prier en étudiant la Bible, il y lut « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Joseph a appris à prier grâce à la foi, quand il a agi selon sa croyance et est allé dans le bosquet sacré et s'est agenouillé. Au-dessus des aides visuelles, vous voyez les deux canaux d'apprentissage, l'esprit et le cœur. Quand nous recherchons la connaissance par l'étude, le Seigneur parle à notre esprit sous la forme de pensées inspirées. Nous pourrions ajouter les mots suivants à la liste des mots liés à l'étude et à l'esprit. Pensée, centre d'intérêt, curiosité, examiner, étudier, rechercher, considérer, interroger et méditer. Les questions inspirées nous poussent à méditer, et méditer sous l'influence de l'esprit nous amène au niveau suivant d'apprentissage, où l'étude rencontre le cœur. Votre méditation nourrit la semence, et elle commence à germer. Et vous commencez à avoir des sentiments inspirés par l'esprit. C'est le cœur, ou les sentiments inspirés, qui change une pensée en croyance. Alma le dit de cette façon. Si c'est une vraie semence, ou une bonne semence, si vous ne la chassez pas par votre incrédulité en résistant à l'esprit du Seigneur, voici, elle commencera à gonfler dans votre sein. Et lorsque vous sentirez ces mouvements de gonflement, vous commencerez à dire en vous-même, il faut nécessairement que ce soit une bonne semence, ou que la parole soit bonne, car elle commence à m'épanouir l'âme. Oui, elle commence à m'éclairer l'intelligence. Oui, elle commence à m'être délicieuse. Nous associons généralement le mot intelligence à l'esprit. Mais plusieurs Écritures lient l'intelligence au cœur. Par exemple, et elle eut le cœur ouvert, et elle comprit dans son cœur les paroles qu'il dit dans sa prière. Quand il parlait de Jacques 1:5, le jeune Joseph disait, « Jamais aucun passage de l'Écriture ne toucha le cœur de l'homme avec plus de puissance que celui-ci ne toucha alors le mien. » Au sujet de ce type de sentiment, Alma a dit, « Or, voici, cela n'augmenterait-il pas votre foi ? Je vous dis que oui. Néanmoins, elle n'a pas grandi jusqu'à être une connaissance parfaite. Ce n'est pas encore une connaissance parfaite. Cependant, avec le cœur touché, nous sommes inspirés à faire un autre pas le long de l'échelle de la foi. Joseph, lui, a été inspiré à agir et à accepter l'invitation des Écritures à prier. Il ne recevrait pas de témoignage jusqu'à la mise à l'épreuve de sa foi. Apprendre la foi nécessite d'agir sur des sentiments et des croyances. Le Sauveur a lancé cette même invitation à apprendre par la foi quand il a dit « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Dans ce verset, le Sauveur nous enseigne que l'action est l'acte de foi qui transforme une croyance en connaissance. Il dit aux incrédules, « Quand même vous ne me croiriez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Concernant la connaissance, Alma a dit, « Et maintenant voici, parce que vous avez tenté l'expérience et planté la semence, et qu'elle gonfle et germe et commence à pousser, vous devez nécessairement savoir que la semence est bonne. Et maintenant voici, votre connaissance est-elle parfaite? Oui, votre connaissance est parfaite en cela. Et votre foi sommeille. Et cela parce que vous savez que votre intelligence commence à être éclairée et que votre esprit commence à s'épanouir. Agir sur votre foi vous a donné de la connaissance. » Nous pourrions ajouter les mots suivants aux autres mots que l'on associe à l'apprentissage par la foi et par l'esprit. Connaissance parfaite dans ce domaine. Prière, repentance, changement de comportement, obéissance, expérience et goût. Alma utilise le verbe « goûter » d'une façon très particulière quand il parle de « goûter à la lumière ». Écoutez. Ou alors, cela n'est-il pas réel? Je vous dis que oui, parce que cela est lumière, et ce qui est lumière est bon, parce qu'on peut le discerner. C'est pourquoi vous devez savoir que c'est bon. Et maintenant, voici, lorsque vous avez goûté cette lumière, votre connaissance est-elle parfaite? Voici, je vous dis que non. Et vous ne devez pas non plus mettre de côté votre foi, car vous n'avez exercé votre foi que pour planter la semence, afin de tenter l'expérience pour savoir si la semence était bonne. C'est en goûtant à cette lumière et en la savourant que vous avez acquis une connaissance parfaite de cela, ou en sachant que la semence était bonne. La lumière vous invite à venir à Jésus-Christ, et le pouvoir de Dieu accomplit des miracles en vous et vous convertit au Seigneur. Alma continue. Et voici, lorsque l'arbre commencera à pousser, vous direz, nourrissons-le avec grand soin, afin qu'il prenne racine, afin qu'il pousse et nous donne du fruit. Voici, vous en cueillerez ou goûterez bientôt le fruit, qui est extrêmement précieux. Goûter le fruit nous amène à l'endroit où l'apprentissage par la foi et le cœur se rencontrent. Là, nous découvrons que le fruit est en effet doux et précieux. Suivre Jésus-Christ et faire sa volonté nous permet de goûter à son expiation et à l'Évangile de multiples façons. Un peu plus tôt dans le processus, notre cœur a été profondément touché. Maintenant, un grand changement de cœur est en train de se produire, comme le décrit Alma, et l'Esprit transforme notre expérience et notre connaissance en conversion. Quand nous sommes convertis au Seigneur, nous suivons le Sauveur en nous faisant baptiser et en recevant le don du Saint-Esprit. Lorsque nous goûtons aux fruits de l'Évangile, nous recevons des bénédictions et une joie et un bonheur si grands que nous voulons les partager avec d'autres, tout comme l'a fait Léhi. Et comme j'en mangeais le fruit, il me remplit l'âme d'une joie extrêmement grande. C'est pourquoi je commençais à désirer que ma famille en mangeât aussi, car je savais qu'il était plus désirable que tous les autres fruits. Être converti au Seigneur dans un sens littéral est le grand changement et la transformation qui nous permet de devenir comme Jésus-Christ en nous rendant aux persuasions de l'Esprit-Saint et en nous dépouillant de l'homme naturel et en devenant un saint par l'expiation du Christ, le Seigneur. Au sens figuré, notre conversion ne sera pas terminée tant que nous n'aurons pas grandi spirituellement et atteint la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est la quête de toute une vie et un voyage de foi en lui avec sa grâce et son aide divine. Cette conversion de toute une vie nécessite un soin continuel de notre part pour éviter le dessèchement décrit par Alma. Mais si vous négligez l'arbre et n'accordez aucune pensée à sa nourriture, voici, il ne prendra pas racine, et lorsque la chaleur du soleil viendra et le brûlera, il se desséchera. C'est pourquoi vous devez marcher résolument, avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. C'est pourquoi, si vous marchez résolument, vous faisant un festin de la parole du Christ et persévérez jusqu'à la fin, voici, ainsi dit le Père, vous aurez la vie éternelle. Ce grand changement et cette conversion ne signifient pas que nous n'aurons plus de questions. Cependant, ayant goûté à la lumière, les questions devraient instaurer en nous le désir de continuer à apprendre plutôt qu'amener des doutes qui peuvent fragiliser notre foi grandissante. Les questions sont une bonne chose. Elles nous poussent à la réflexion, la recherche et la prière. Joseph Smith a continué de se poser des questions tout au long de sa vie. Presque toutes les sections des Doctrines et Alliances lui ont été révélées en réponse à des questions qu'il avait posées au Seigneur en prière, ligne sur ligne et précepte sur précepte. Le Seigneur a appris de la même manière. Et il ne reçut pas la plénitude des labors, mais continua de grâce en grâce jusqu'à ce qu'il reçût une plénitude. Revenons à notre échelle de la foi. Nous avons cité tout en haut une connaissance parfaite de Jésus-Christ et son Évangile. Analysons maintenant l'expression « connaissance parfaite ». Faisant référence à l'action de « goûter la lumière », Alma a enseigné que « votre connaissance est parfaite en cela ». Dans le verset suivant, faites attention à l'utilisation que fait le prophète Mormon de la même expression « connaissance parfaite » quand il témoigne de la même lumière. « Car voici, mes frères, il vous est donné de juger, afin que vous discerniez le bien du mal. » Et la façon de juger, afin de savoir avec une connaissance parfaite, est aussi claire que la lumière du jour par rapport à la nuit sombre. Car voici, l'Esprit du Christ est donné à tout homme, afin qu'il puisse discerner le bien du mal. C'est pourquoi je vous montre la façon de juger. Car tout ce qui invite à faire le bien et à persuader de croire au Christ est envoyé par le pouvoir et le don du Christ. C'est pourquoi vous pouvez savoir avec une connaissance parfaite que c'est de Dieu. Et maintenant, mes frères, étant donné que vous connaissez la lumière par laquelle vous pouvez juger, laquelle lumière est la lumière du Christ, veillez à ne pas juger à tort. Les deux prophètes témoignent que c'est la lumière du Christ qui nous donne une connaissance parfaite de la vérité. Même les gens du monde reconnaissent qu'ils ont un sens inné du bien et du mal. Ils reconnaissent la lumière du Christ dans leur utilisation du mot « conscience » qui vient du mot latin « conscientia » ou « connaissance interne ». Avec cette lumière comme sceau de vérité, nous continuons de progresser le long de l'échelle de la foi, ligne sur ligne et précepte sur précepte. Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. D'ici un instant, nous allons tenter l'expérience d'Alma pour que vous puissiez vous souvenir du goût de cette lumière et de la façon dont elle vous donne une connaissance parfaite. Avant de faire cette expérience, il est important d'identifier un autre élément essentiel de ce processus. On nous enseigne dans De Néphi 2 qu'il doit y avoir une opposition en toutes choses. Le genre humain goûte à l'amer afin d'apprendre à apprécier le bien. Par exemple, la santé est premièrement l'étude de son opposé, la maladie. La liberté, l'étude de l'oppression et de l'esclavage. Le bonheur, l'étude de la peine, etc. Et comme le petit miracle des Lucioles, la lumière ne peut pas être appréciée sans obscurité. L'opposition est indispensable à notre apprentissage et notre bonheur. Sans l'opposition, la vérité reste cachée en plein jour. Comme quand on prend l'air pour acquis, jusqu'au moment où on a du mal à respirer. Comme la lumière du Christ est toujours présente, beaucoup de gens ne remarquent pas l'Esprit dans leur vie, comme ces Lamanites dans 3 Néphi 9-20, qui ont été baptisés de feu et du Saint-Esprit, et ils ne le savaient pas. Non seulement l'opposition révèle ou dévoile la vérité, mais elle manifeste également son pouvoir inhérent, sa joie et sa douceur. Par exemple, il a fallu que le fils prodigue goûte à la vie amère pour comprendre quelle vie douce il avait abandonnée et avait prise pour acquis dans sa jeunesse. Ce n'est que par la douleur et la maladie que nous apprécions la valeur de notre santé. Quand nous sommes victimes de malhonnêteté, nous chérissons l'intégrité. Quand nous sommes victimes d'injustice ou de cruauté, nous chérissons l'amour et la gentillesse. Tout ceci avec une connaissance parfaite, ayant goûté le fruit de chacun par la lumière qui est en nous. La connaissance parfaite vient fruit après fruit, par l'opposition à toute chose. L'obéissance au commandement de Dieu nous promet un bonheur suprême, un accroissement et une progression à travers l'opposition, non à la contournant. Les mers calmes ne font pas de bons marins. Réfléchissez à la déclaration pertinente du prophète Joseph Smith. En prouvant ses contraires, la vérité se manifeste. Et à celle de Brigham Young. Tous les faits sont prouvés et rendus manifestes par leur opposé. Maintenant, vous allez participer à l'expérience en réfléchissant à plusieurs commandements regardant le comportement ou vertu chrétienne et en les comparant à leur opposé. En réfléchissant à chacune d'elles, la lumière du Christ qui est en vous devrait confirmer à votre esprit et votre cœur que chaque vertu chrétienne est douce et que son opposé est amer. L'amour opposé à la haine, à l'hostilité, à l'opposition. L'honnêteté, opposée au mensonge, à la tromperie, au vol. Le pardon, opposé à la revanche, au ressentiment, à l'amertume. La gentillesse, opposée à la malveillance, à la colère, à la méchanceté. La patience, opposée à l'impatience, à l'impétuosité, à l'intolérance. L'humilité, opposée à l'orgueil, à l'arrogance, à l'incapacité d'être instruit. Pacificateur, opposé à querelleur, diviseur, provocateur. La diligence, opposée à querelleur, diviseur, provocateur. La diligence opposée à la lassitude, l'abandon, l'obstination. Ceci n'est qu'une poignée d'entre elles parmi les dizaines de vertus chrétiennes, mais elles suffisent pour clairement démontrer l'efficacité de l'expérience de la semence. En méditant sur cette liste, vous reconnaissez que vous êtes parvenu à la connaissance du pouvoir, de la vérité et de la douceur de chaque vertu, une par une, grâce à des milliers d'expériences qui le confirment, comme le disait Neil Maxwell. Le bon fruit va avec sa preuve et sa validation inhérente, son goût. La preuve vient en le mangeant, fruit après fruit et ligne après ligne, chaque fois avec une connaissance parfaite. Peut-être que c'est ce que l'apôtre Paul voulait dire quand il a dit « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ». Si vous avez intégré ces vertus et d'autres dans votre vie, vous êtes bien plus loin le long de l'échelle de la foi que vous ne le pensiez. Cependant, ce n'est que ce que j'appellerais un témoignage terrestre ou de la gloire de la lune. Une personne pieuse, quelle que soit sa religion, a le même témoignage parce qu'elle oscille à la lumière du Christ dont Mormon a parlé et a accepté une partie de son évangile. Un témoignage céleste ou de la gloire du soleil vient en recherchant la plénitude du Père. Quand une personne est baptisée et digne du don du Saint-Esprit, elle reçoit une plus grande portion de la lumière du Christ, comme on le remarque dans le verset suivant du livre de Mormon. Si c'est là le désir de votre cœur, qu'avez-vous qui vous empêche d'être baptisé au nom du Seigneur, afin qu'il déverse plus abondamment son esprit sur vous? Dieter Rudorf nous a appris que plus nous tournons notre cœur et notre esprit vers Dieu, plus la lumière des cieux se distille sur notre âme. Et celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière. Et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'une plus grande abondance de lumière améliore votre vue. Vous le savez. Le prophète Joseph Smith a dit, « Plus un homme se rapproche de la perfection, plus ses idées sont claires et plus ses joies sont grandes. » Avec une plus grande lumière avec laquelle voir, mettons l'expérience à un niveau céleste et comparons certaines doctrines qui sont uniques à l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours avec celles qu'on trouve ailleurs sous une lumière plus faible. Dieu est notre Père et nous sommes créés à son image. Opposé à, il n'est pas notre Père littéral, il est incompréhensible et on ne peut pas le connaître. Son organisation divine avec des prophètes et des apôtres, opposé à l'abandon de son modèle établi. Le Seigneur est un Dieu d'ordre qui gouverne par l'intermédiaire des détenteurs de la prêtrise, opposé à la confusion, les voix discordantes, les faux esprits. L'autorité de la prêtrise est l'appel par Dieu opposé à une licence en théologie, l'élection, l'embauche ou l'autoproclamation. Les ordonnances et les alliances opposées à simplement vivre une bonne vie. L'innocence des enfants opposée à le baptême des bébés. Le livre de Mormon, un deuxième témoignage opposé à la Bible et le seul témoin. L'œuvre du temple pour les morts opposée à un cierge et une prière pour les morts. C'est leur seule autre option. Le mariage et la famille éternelle, en opposition avec jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est instructif de comparer la vérité à son opposé. Cela permet de révéler ce qui est évident, ce qui est caché en plein jour. Nous reconnaissons que nous en savons bien plus que nous ne le pensions. Cela devrait nous inspirer à continuer à rechercher diligemment dans la lumière du Christ et à nous saisir de toutes bonnes choses. Maintenant, examinons un aspect intéressant de la foi et du témoignage. Le guide des Écritures nous indique que la vraie foi doit être centrée sur Jésus-Christ pour mener une personne au salut. Elle comprend l'espérance en des choses qui ne sont pas vues, qui sont vraies. N'est-ce pas intéressant que la foi en Jésus-Christ soit le fait de croire sans voir, quand le monde croit, au contraire, que voir, c'est croire. L'homme naturel découvre le monde à travers ses cinq sens, demandant des signes comme preuve. Et pourtant, les Écritures sont pleines d'exemples de personnes qui ont reçu des manifestations de la présence et du pouvoir de Dieu à travers ces cinq sens, sans être durablement convertis. Laman et Lémuel ont vu un ange. Ils ont entendu la voix du Seigneur qui les corrigea extrêmement. Ils ont senti le pouvoir de Dieu quand Néphi a étendu sa main et le Seigneur les ébranla. Ils ont goûté et senti. Je rendrai votre nourriture tendre pour que vous ne la cuisiez pas. Malgré de multiples manifestations au travers des cinq sens, Laman et Lémuel se sont rebellés. Est-ce que pour revoir, c'était croire? Quand Moïse a conduit les enfants d'Israël hors d'Égypte, ils avaient été témoins des plaies et des colonnes de feu, de la séparation de la mer Rouge. Ils avaient goûté la manne, des expériences faites avec leurs cinq sens. Et en dépit du fait qu'ils aient été conduits, le Seigneur, leur Dieu, leur Rédempteur, allant devant eux, les conduisant le jour et leur donnant de la lumière la nuit, et faisant pour eux tout ce qu'il était utile à l'homme de recevoir, ils s'endurcirent le cœur et s'aveuglèrent l'esprit et insultèrent Moïse et le Dieu vrai et vivant. Assurément pour eux, voir n'était pas croire. Il y a beaucoup d'exemples similaires dans les Écritures, mais le plus sidérant de tous est celui des personnes spirituellement folles qui ont rejeté le Sauveur, alors même qu'elles étaient en sa présence. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Il y a bien trop d'exemples qui prouvent, au contraire, que voir, c'est croire. Les personnes qui espèrent une expérience spectaculaire pour les aider à définir leur témoignage ne comprennent pas que le plus grand témoignage de l'Esprit nous est donné au quotidien, par de nombreux petits moyens, comme la dernière fois que vous avez souligné vos Écritures. Pensez-y. Vous soulignez vos Écritures parce que vous avez reçu une inspiration, une idée, fait une découverte. Une inspiration est une révélation. Vous avez un autre exemple de révélation quand vous êtes inspiré à être bon ou à faire un bon geste. Car tout ce qui invite à faire le bien est envoyé par le pouvoir et le don du Christ. La lumière du Christ est toujours présente. Vous y goûtez tous les jours. Et c'est de ces murmures, de ces petites choses, que sort ce qui est grand. Connaissez-vous quelqu'un dans le livre de Mormon qui a vu un ange et a cru? Vous pensez sans doute à Alma le jeune. Un ange lui est apparu et descendit comme dans une nuée. Et il parla comme avec une voix de tonnerre, alors qu'il était avec les fils de Mosia. Vous connaissez le reste de l'histoire, le repentir d'Alma et le ministère qui a suivi. Est-ce que pour Alma, voir, c'était croire? Non. Pourquoi? Parce qu'Alma devait encore exercer son libre arbitre pour apprendre par la foi et n'avait toujours pas prié pour connaître la vérité. Voir n'est pas un raccourci vers la foi ou un témoignage, comme le prouvent les nombreux exemples cités que je viens de donner. Alma lui-même décrit la façon dont il a reçu son témoignage et il ne l'attribue pas à l'apparition d'un ange. En fait, il ne mentionne nulle part l'ange dans son témoignage. Et ce n'est pas tout. Ne pensez-vous pas que je sais ces choses par moi-même? Voici, je vous témoigne que je sais que ces choses dont j'ai parlé sont vraies. Et comment, selon vous, sais-je qu'elles sont certaines? Voici, je vous dis qu'elles me sont révélées par l'Esprit Saint de Dieu, la lumière. Voici, je vous dis qu'elles me sont révélées par l'Esprit Saint de Dieu. Voici, j'ai jeûné et prié de nombreux jours afin de connaître ces choses par moi-même. Et maintenant, je sais par moi-même qu'elles sont vraies, car le Seigneur Dieu me les a manifestées par son Esprit Saint, et c'est là l'Esprit de révélation qui est en moi. Un signal d'alarme ou un changement de comportement à court terme peuvent venir de l'extérieur vers l'intérieur, à travers nos cinq sens, mais ils ne durent jamais, comme avec l'amant et les muelles. Un témoignage durable ne peut venir que de l'intérieur, comme on l'apprend par l'étude et par la foi, grâce au Saint-Esprit qui plante l'Évangile au-dedans de nous et l'écrit dans le cœur. C'est pourquoi les Néphites, qui bien qu'ayant vu, entendu et ressenti le Sauveur au moment où il leur rendit visite, et ayant goûté et senti le pain qu'il a miraculeusement fourni, ont néanmoins prié pour ce qu'ils désiraient le plus. Et ils désiraient que le Saint-Esprit leur fût donné. Il y a quelques années, un missionnaire d'Ajmur m'a raconté l'histoire suivante. Elle lui était arrivée quand il était jeune dans les années 1960 et illustre aussi que c'est seulement par l'étude et la prière que le Saint-Esprit nous donne un témoignage de la vérité. Il a dit, je vivais seul à Provo, en Utah, dans un petit appartement près du centre-ville. Je travaillais comme vendeur dans un magasin de petits meubles et c'est pendant le long week-end du Nouvel An que l'incident s'est produit. C'était un long week-end férié. C'était jeudi 31 décembre, le réveillon du Nouvel An. On nous avait donné congé de jeudi à dimanche et j'étais dans mon appartement sans aucun projet de fête. Je préparais mon dîner et pendant qu'il cuisait, j'ai cherché de quoi lire. N'ayant rien dans mon appartement, j'ai demandé à mes voisins, des étudiants à l'université Brigham Young, s'ils avaient quelque chose, espérant avoir un exemplaire d'un magazine de pêche et de chasse, ou quelque chose de ce genre. Ils n'avaient aucun magazine, mais ils avaient un livre qui pouvait peut-être m'intéresser. Ils m'ont donné un exemplaire du livre de Mormon. Bien qu'ayant entendu parler de l'Église mormone, qui en Utah ne la connaissait pas, je ne connaissais pas ce livre. Je les ai remerciés et je l'ai emporté dans mon appartement. Pendant le dîner, je l'ai feuilleté et j'ai commencé à lire. J'admets avoir survolé plusieurs parties, essayant de trouver l'intrigue. Il y avait des noms et des lieux dont je n'avais jamais entendu parler et je n'arrivais pas à m'y intéresser. Aussi, après le dîner, j'ai rendu le livre en disant « Non, merci ». Avez-vous prié à son sujet ? M'a demandé l'un des jeunes. Prié à son sujet ? Ai-je répondu, je voulais juste quelque chose à lire, pas une chose pour laquelle je dois prier. Cela a déclenché une discussion très intéressante sur le contenu du livre de Mormon. Ils m'ont dit que c'était un livre d'écriture, un livre dont Dieu me révélerait s'il était vrai, par le pouvoir du Saint-Esprit, si je priais d'abord à son sujet, puis le lisais avec le désir sincère de savoir s'il était vrai ou non. J'avais été élevé dans la foi catholique, et bien qu'à ce moment-là je ne sois pas pratiquant, je tenais fermement à mon appartenance à cette Église, parce que je n'avais connu que cela. Les seules prières que j'avais faites étaient le Notre Père, le Je vous salue Marie, et la lecture de mon missel, chose que je n'avais pas faite depuis très longtemps. Et maintenant, voilà que des jeunes gens me demandaient de prier un Dieu que je ne connaissais pas vraiment et de lui demander de me dire si le livre était vrai ou non. Alors, pourquoi pas? Je n'avais rien d'autre à faire et le week-end allait être très long. J'ai rapporté le livre chez moi, ouvert une bouteille de bière, allumé une cigarette et me suis mis à genoux pour demander à Dieu si ce livre était vrai. Puis j'ai débuté ma lecture. Moi, Néphi, étant né de bons parents, les noms et les lieux étaient les mêmes que ceux que j'avais lus quelques heures auparavant. La seule différence, cette fois, c'est que mon scepticisme s'était évanoui, comme par magie. J'étais captivé par le livre. Je visualisais Néphi, je visualisais ses frères, et cela m'énervait de les voir le maltraiter. Je soutenais les gentils et j'avais pitié des méchants. J'ai lu pendant des heures. Je ne pouvais plus poser le livre. Quand j'ai finalement vu l'heure à ma montre, il était presque 5 heures du matin. Je me suis souhaité une bonne année et je suis allé me coucher. Je me suis réveillé vers 8h30 et j'ai instinctivement repris le livre. Et c'est ainsi que s'est déroulé le reste de mon week-end. Quand pour parler piprate, pensais à la nourriture m'embêter. Je ne voulais pas être dérangé par quoi que ce soit. J'ai décroché mon téléphone et j'ai lu toute la journée, m'interrompant uniquement pour grignoter. Comme pour la première nuit, je me rendais compte qu'il était très tard, dormais quelques heures, reprenais le livre et continuais mon marathon. Enfin, le lundi, vers 5 heures du matin, j'ai terminé le livre et me suis endormi, épuisé. Peu de temps avant Noël, cette année-là, j'avais vendu une grande moquette dans la région d'American Fork. C'était un type de moquette particulier et mon patron voulait que j'en supervise la pose. Mon patron était un ancien évêque de la région de Provo et m'avait plusieurs fois parlé de l'église, mais je ne voulais pas écouter. C'était un bon patron, mais il ne fallait pas le provoquer parce qu'il avait son caractère. C'est ce lundi matin-là, à 8 heures, que je devais superviser la pose de la moquette. Je ne me suis pas présenté à l'heure du rendez-vous, ni à 9 heures, ni à 10 heures. Finalement, vers 10h30, mon patron, fou de rage, est entré dans mon appartement, prêt à m'arracher la tête. Mais, en me voyant allongé sur le canapé, avec le livre de Mormon sur la poitrine, il a changé d'avis. Il a doucement fermé la porte et est retourné au magasin, confiant qu'il trouverait une solution pour poser la moquette. Je me suis réveillé peu après 11h30. Prenant conscience de l'heure qu'il était et ne sachant pas que mon patron était passé, j'ai fait une autre prière pour la deuxième fois en peu de temps. Je me suis rapidement habillé, croyant qu'en arrivant, je perdrais probablement mon travail. J'ai pris ma voiture et j'ai foncé jusqu'à mon lieu de travail. Mon patron était là. Je suis allé le voir pour lui demander de m'excuser. Il s'est retourné, un sourire aux lèvres, et m'a demandé, « Avez-vous aimé le livre ?» Me rendant compte de ce qui avait dû se passer, j'ai revu en moi-même le week-end précédent, et les larmes aux yeux, j'ai dit la seule chose que je pouvais dire. Le livre est vrai. Le livre de Mormon est la parole de Dieu. Je me suis mis alors à pleurer. Il s'est approché et m'a serré dans ses bras. Je me suis fait baptiser dans l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, le 22 janvier 1965. J'ai rencontré ce frère des décennies après sa conversion. Sa femme et lui étaient missionnaires au centre d'accueil des visiteurs du bataillon mormon de San Diego. La raison pour laquelle j'aime tant cette histoire, c'est le contraste entre les deux tentatives de lecture du livre de Mormon. Lors de sa première tentative, il a commencé à lire sans intention réelle ni prière. Lors de la seconde tentative, avec le désir et la prière, c'était une toute autre expérience. Il n'y a qu'une seule façon de savoir si le livre de Mormon et l'Évangile sont vrais. Et il faut plus que de la curiosité et plus que ses 5 sens. Il faut utiliser sincèrement son libre arbitre et agir sur son désir de connaissance. Et lorsque vous recevrez ces choses, je vous exhorte à demander à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies. Et si vous demandez d'un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. Cette promesse n'est pas formulée en termes d'éventualité. La promesse dit, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Un autre principe édifiant que nous découvrons dans cette histoire est que vous n'avez pas besoin de lire tout le livre de Mormon pour obtenir un témoignage, car l'homme dans cette histoire a goûté à la lumière dès la première page. Il n'a pas eu à manger la pizza tout entière avant de savoir qu'elle était délicieuse. Pour d'autres, cela peut être une découverte gustative, puis la lumière devient délicieuse avec le temps. Il semble que c'est ce que dit Alma dans ce verset. Oui, elle commence à m'éclairer l'intelligence. Oui, elle commence à m'être délicieuse. Au début, je vous ai demandé de noter votre témoignage sur l'échelle de la foi. J'espère que vous avez découvert que votre témoignage est bien plus avancé que vous ne l'imaginiez. Avec le Saint-Esprit pour instructeur, vous avez acquis une connaissance parfaite de nombreux fruits de l'Évangile. Et fruit après fruit, ligne après ligne, votre témoignage a été fortifié de jour en jour. Plus on apprend et plus on vit l'Évangile, plus on reçoit la lumière et plus le plan du Père devient l'Évangile du bon sens. Nous apprenons par nos propres expériences que le fruit de l'arbre de vie est en effet précieux et très doux, au-delà de tout ce que nous n'avons jamais goûté auparavant, et qu'il remplit notre âme d'une joie extrêmement grande. Notre amour pour lui grandit à cause des bénédictions, de la joie et de la maîtrise qu'il nous donne sur les conséquences positives dans notre vie et l'espérance d'un bonheur sans fin dans des familles éternelles. Je rends mon témoignage que je sais, et je sais que je sais, par le Saint-Esprit, que le livre de Mormon est vrai. C'est la parole de Dieu. Il est doux et précieux à savourer. J'aime et je chéris son goût. Je témoigne que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il a été crucifié et a souffert pour les péchés du monde. Il est notre Sauveur et continue de diriger et guider son Église et son royaume ici sur la terre par l'intermédiaire de prophètes et d'apôtres actuels. Je témoigne de son nom et de ses vérités sacrées au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our Father in heaven.
Notre Père céleste, nous nous inclinons devant toi pour te remercier pour toutes les nombreuses bénédictions que nous avons, en particulier de l'expérience de cette vie, pour devenir plus semblable à toi et à ton Fils Jésus-Christ. Père, nous te remercions que Frère Robin soit à l'écoute de l'Esprit pour nous faire part de ce que nous devons savoir, pour étudier tes Écritures, éclairer notre intelligence et le mettre en pratique dans notre vie, ainsi que l'expiation de ton Fils Jésus-Christ. Bénis-nous pour que nous puissions nous souvenir toujours de lui et de toi, Père, et t'aimer. Et nous prions pour que nous ayons la charité dans notre cœur et que nous partagions ce don merveilleux que tu nous as fait, Père. Nous prions pour que nous délaissions l'homme naturel et pour que nous exercions notre libre arbitre plus sagement. Père céleste, et nous prions pour ces choses humblement, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.